RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors que la campagne présidentielle bat son plein, il nous a paru nécessaire de prendre du recul, notamment sur le plan historique, pour mieux comprendre ce qui se trame aujourd'hui en France, dans la perspective de ce choix fondamental. Nous allons donc converser avec nos deux invités, l'un Éric Roussel, marqué par la naissance de la Ve République et son développement, l'autre Laetitia Strauss-Bonnard, qui tente de faire entendre une voix non conformiste dans le concert des intellectuels aujourd'hui et qui propose une analyse fondée sur l'histoire. Alors Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le biographe de nos grandes figures politiques. Vous avez tracé le portrait de Georges Pompidou, Charles de Gaulle, Pierre Mendès-France, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Vous êtes membre de l'Institut et vous publiez vos carnets d'un biographe titré « C'était le monde d'avant ». C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est l'occasion pour vous de porter un regard lucide, informé et acéré sur ce fameux monde d'avant. Un monde politique français marqué par la grande fracture de 1940, puis par la décolonisation et enfin par les débats autour de l'Europe. Un monde structuré par des forces politiques et institutionnelles républicaines. Un monde où ni l'abstention ni les extrêmes n'étaient maîtresses du jeu politique. Un monde dont vous révélez quelques caractéristiques inavouées. Une lecture, il faut le dire, aussi passionnante que savoureuse. Avec vous donc Laetitia Strauss-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef au Point. Vous êtes responsable des pages débat intitulées Le Postillon, c'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà. Vous êtes essayiste, historienne. Et votre livre s'intitule De la France. Il est publié à la fois chez Perrin aux Presses de la Cité. Et vous vous inscrivez dans ce courant libéral et conservateur qui n'a pas toujours bonne presse aujourd'hui, mais qui ose s'exprimer. Et vous proposez, pour comprendre notre pays, le concept fortement ancré dans notre histoire d'une société de créances. Nous en parlerons tout à l'heure. Voilà, à travers vos deux regards croisés, nous allons tenter de mieux comprendre les grands courants qui animent notre vie politique, leurs histoires et surtout les défis auxquels doivent répondre les candidats à la présidence de la République. Voilà, les clés de l'histoire pour comprendre la campagne présidentielle, c'est le thème de cette édition des Racines du Présent.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Les Racines du Présent, nous allons donc plonger dans notre histoire politique à travers deux regards, celui d'Éric Roussel qui publie « C'était le monde d'avant, carnet d'un biographe » aux éditions de l'Observatoire, et Laetitia Strauss-Bonnard qui publie chez Perrin et aux Presses de la Cité de la France. Alors, je commence avec Éric Roussel, vous nous proposez une plongée absolument passionnante dans l'histoire politique du monde d'avant. Nous allons évoquer la galerie de portraits que vous nous proposez, mais d'abord je voudrais en venir peut-être tout à fait vers la fin de votre livre. Vous êtes effaré dans la fin de ce livre sur la situation politique contemporaine. Aujourd'hui, vous êtes effaré, je vous cite, par ce déferlement de sexe, de pulsions premières, sur fond de consumérisme et bientôt de haine raciale, le vide où se meut l'homme contemporain, détaché de ses racines traditionnelles, affranchi de tous les interdits, sauf de l'obligation de consommer, et de plus en plus confronté, écrivez-vous, Éric Roussel, à l'émergence d'une religion jadis minoritaire, porteuse de valeurs différentes de celles des anciens. Société occidentale. Est-ce que ça va aussi mal que ça, Éric Roussel?
Non, mais ça c'est un constat que je fais. Oui. Bon, c'est, si vous voulez, moi je porte moins de. Je ne suis pas non plus un philosophe, je ne porte pas de. Encore une fois, c'est un constat, c'est, notamment à travers la littérature. La littérature est un très bon révélateur.
Oui.
Notamment, je trouve par exemple, je le cite, l'œuvre de Houellebecq,
oui.
Bon, qui est peut-être inégale, mais enfin mm-hmm. qui est quand même très.
Significative.
C'est
un baromètre. Oui.
Il se trouve que je suis membre d'un jury qui est de littéraire, donc nous recevons beaucoup de romans. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, on a commencé à recevoir des livres qui, pour moi, traduisaient vraiment le basculement dans le monde, dans un autre monde.
Oui, c'est-à-dire
c'est ce que je décris, ce que vous avez, oui. ce que vous avez décrit. C'est-à-dire que c'est un monde où la littérature, disons, qui était... la littérature de l'entre-deux-guerres, qui était mmh. et avec son prolongement, disons, jusque dans les années 60, paraît aujourd'hui à des années-lumière, notamment pratiquement tous les problèmes métaphysiques ont pratiquement disparu. Enfin, il me semble, hein, je sais pas, moi j'ai pas
vu
absolument, absolument d'ensemble. Oui, comme je le dis, je sais pas, par exemple, François Mauriac ou Bernanos revenaient aujourd'hui, je crois qu'il serait...
Que dirait-il ?
Oui, il serait assez effaré. Non, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de talent, mais c'est vrai qu'on est dans un autre monde. Et cette littérature, elle reflète quand même la société actuelle. Oui, c'est vrai.
Laetitia Strauss-Bonnard, vous êtes de la génération d'intellectuels qui succède à Éric Roussel. Est-ce que vous partagez ce diagnostic un peu triste et un peu noir, peut-être ?
J'ai envie de dire oui. Alors, je fais partie de la génération qui lui succède, mais en même temps, moi, je suis très influencée par tous les grands auteurs du passé. Donc, j'ai l'impression d'avoir un pied dans le passé très largement. Oui. Et parce qu'ils sont importants. Bien sûr, ils ont toujours des choses à nous dire sur aujourd'hui.
Citez-les, qui sont vos maîtres à penser.
Alors, pour moi, c'est moins du côté du roman que
de l'analyse politique.
L'analyse politique, philosophique. Clairement, pour moi, c'est d'abord Tocqueville, Alexis de Tocqueville, qui était donc député et philosophe et qui a écrit, comme on le sait, de la démocratie en Amérique, notamment. Et Benjamin Constant également, autre grande figure du libéralisme français. Et puis plus récemment, Jean-François Revel. Alors, on ne le lit plus beaucoup, il est un peu oublié, mais pour moi, c'était une grande figure qui avait aussi une plume exceptionnelle. Et pour moi, c'est aussi ça qui manque aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup
Éric
de
Roussel,
grandes plumes.
Éric Roussel, vous êtes aussi un grand lecteur de Jean-François Revel, que vous avez bien connu.
Oui. Bien, enfin je l'ai connu et c'était quelqu'un que j'aimais bien et qui était un personnage à la fois profond, quelquefois paradoxal et qui avait beaucoup de talent, et c'est ça qui c'était une alliance assez rare, entre un grand intellectuel et à mon avis un grand écrivain, et on voit ça dans ses souvenirs. Ses souvenirs sont vraiment formidables.
Oui, ses mémoires sont vraiment passionnantes.
Relisons Revel. On va en venir à l'histoire, si vous voulez bien. Éric Roussel, j'ai relevé deux caractéristiques dans votre diagnostic sur l'histoire politique de la France. La première caractéristique, vous écrivez « Peu de nations sont aussi imprévisibles que la nôtre, donc il faut s'attendre à tout ». Et ensuite, vous écrivez « Le refus de la réforme pacifique ancrée dans l'ADN national ». Expliquez-nous, Éric Roussel.
Oui, ça, je crois que chacun peut le constater. Il suffit de regarder, par exemple, toute l'histoire du 19e siècle. Mm-hmm. On voit bien que c'est une suite de révolutions. Et ça, c'est toujours... Napoléon...
Charles X, écrivez-vous, est tombé... Il faut préciser, écrivez, Éric Roussel, Charles X est tombé pour avoir voulu ressusciter la France d'avant 1789. Louis-Philippe, lui, est tombé en refusant avec Guizot l'élargissement du corps électoral. Et Napoléon III est lui aussi tombé dans le même piège avec les mêmes conséquences. C'est une constante.
Napoléon III, c'est surtout, à mon avis, sa politique étrangère qui était vraiment aberrante. Et si on remonte au XXe siècle, au fond, il y a eu les événements de 34.
Oui. Le 6 février 34.
Le 6 février 34. Oui. Et puis, il y a eu quand même 68. Bon, c'est 68 grâce à De Gaulle. Oui. Ça s'est pas terminé comme ça. Mais enfin, le 30 mai, quand il est parti pour Baden-Baden, c'était, à mon avis, il avait d'ailleurs en tête, c'est quelqu'un qui avait la tête pleine d'histoire, et notamment l'histoire du 19e siècle, il savait très bien comment s'était terminé les règnes dont nous parlions. Et à mon avis, son départ pour Baden-Baden, c'est le réflexe d'un soldat, d'abord, qui veut retrouver sa liberté, et puis de quelqu'un qui connaît l'histoire et qui en tient compte. Lui a réussi à retourner la situation, mais enfin, on a bien vu à cette occasion qu'il y avait un besoin de changement qui n'arrivait pas à se traduire pacifiquement.
Alors justement, vous tressez une sorte de fil rouge ou de fil bleu-blanc-rouge, peut-on dire, à travers notre histoire, à travers ces épisodes difficiles et révolutionnaires, 1789, 1793, 1830, 1848, 1870, l'instauration de la République, et puis ensuite 1934, 1968. Pour vous, voilà, ça c'est une ligne de fracture qui parcourt l'histoire de France, Éric Roussel.
Oui, et on peut ajouter 1981, parce que 1980, ça a été ça aussi. 1981, on voit ça, avec, à mon avis, avec le recul, c'est largement un effet différé de mai 68. C'est la grande habileté de Mitterrand a été de sentir qu'il y avait toute une génération qui avait des aspirations et qui était masquée au fond par le triomphe d'une parlementaire, de députés qui étaient dans le sens très, très conservateur, parce qu'il y avait eu, la frousse.
Les élections de juin 1968.
Oui. Donc il y avait eu 68. Ça s'était renouvelé en 73, mais ça masquait quand même le fait qu'il y avait des gens qui piaffaient, et qui étaient les héritiers de
Le fruit de 68 était mûr en 81.
Et
Mitterrand a su le cueillir.
Oui. Et c'est ce que Giscard, d'ailleurs, lui, a eu du mal à comprendre. Moi, j'ai écrit un livre sur lui, je l'ai rencontré très souvent, jusqu'à la fin de sa vie, et il me disait toujours qu'il avait voulu, pendant tout son mandat, qu'il était obsédé par mai 68, et il voulait absolument que ça ne se reproduise pas. D'où les réformes qu'il a menées à bien au début de son septennat. Ce qu'il peut-être qu'il n'avait pas vu, si vous voulez, mais enfin bon, quand on a l'œil sur l'événement, c'est moins facile. C'est ce basculement culturel, quoi, qu'on voit mieux aujourd'hui avec et puis le fait que lui, évidemment, se confondait en dépit de ses réformes, avec l'ancien monde. Et Mitterrand, dont on connaissait pas à l'époque tout le passé.
Oui.
Lui apparaissait comme un homme relativement neuf et qui avait su prendre en compte toutes ses aspirations.
Alors qu'il était tout sauf neuf, on en reparlera tout à l'heure. Alors, juste encore une précision avant de rentrer dans cette magnifique galerie de portraits que vous nous proposez de visiter dans votre livre, Éric Roussel. Ce basculement que vous évoquez entre le monde d'après et le monde d'avant, vous le décrivez dans ces termes. Ceux qui aspiraient au pouvoir dans le passé s'adressaient à un peuple relativement homogène et au sein duquel les disciplines collectives ne se trouvaient pas contestées comme elles le sont à présent. Si le président pouvait être combattu, attaqué, calomnié même, l'autorité de l'État, écrivez-vous, Éric Roussel, n'était pas encore complètement érodée. Ça, c'est un vrai changement.
Oui, c'est un vrai changement qu'on peut constater tous les jours. Dans un certain sens, la tâche des hommes politiques d'aujourd'hui est plus compliquée que celle de...
Beaucoup plus compliquée. Ils ont l'air un peu perdus, du reste.
Oui. Non, ouais. Parce que le grand changement, c'est ce que montre le livre de Jérôme Fourquet,
l'archipel
français. Ouais. C'est-à-dire la France est composée de communautés qui peinent au fond à trouver un langage commun. Donc chaque candidat, c'est très frappant là dans la campagne électorale. Dans chaque camp, les candidats ont des langages alternatifs. Tous les jours, ils s'adressent à tel ou tel, sans crainte de se contredire.
À tel ou tel îlot de l'archipel.
Oui. Mais le moyen de faire autrement, c'est difficile. Voilà, on est devant un état de fait. Alors, peut-être que c'est provisoire, je ne sais pas. On pourra. De toute façon, c'est un changement inéluctable. C'est pas la peine.
Voilà. Profond, aussi profond qu'inéluctable.
Je crois que c'est.
Donc, ne regrettons pas le monde d'avant. C'est ça que vous nous dites.
Le monde d'avant avait son charme et ses vertus. Mais enfin bon, moi je suis pas un nostalgique. Je trouve qu'il y a des tas de raisons aussi d'être optimiste. Globalement, on vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui que...
Merci de nous rassurer.
Je trouve aussi. Non, mais en dépit de la pandémie.
Alors,
il y a, effectivement, il y a des repères qui ont complètement changé et peut-être qu'on n'a pas encore le mode d'emploi. Il y a peut-être
ces repères, autrefois, Éric Roussel, vous soulignez ce qu'on a peut-être... que certains ont beaucoup oublié, c'est cette attraction du marxisme. Le Parti communiste était à 20%. C'est ce qui structurait la vie politique française.
Oui, c'était quelque chose de très puissant. Et ça continue d'ailleurs de structurer la société.
Vraiment ?
Oui, parce que si vous voulez, il y a quand même, faut pas oublier que face à Pompidou, Jacques Duclos, qui était quand même un stalinien patenté, a quand même fait 20%.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a pas si longtemps, ça remonte pas quand même à Mathusalem, il y avait 20% du corps électoral qui votait communiste. Bah, tous ces gens-là, ils ont des descendants. Donc, si vous voulez, il y a une mémoire collective qui se... dans l'autre côté aussi.
Mais le Parti communiste, c'est 2% aujourd'hui?
C'est 2%, mais il n'empêche qu'il est quand même dans les... C'est resté
il est dans
même,
les têtes,
malgré tout dans les mentalités. Bah, écoutez, Mélenchon, c'est quand même une grande partie de l'électorat du Parti communiste.
C'est à la fois Mirabeau et Trotsky.
Et un peu, d'ailleurs, Marine Le Pen aussi.
Ils ont un pied dans l'ancien monde encore, d'une certaine façon.
Bah, ça a laissé des traces, si vous voulez. notamment le fait, si vous voulez, qu'on peut pas, quand le monde communiste s'est écroulé, il y a une trentaine d'années, au fond, il n'y a pas eu ce qui s'est passé pour l'hitlérisme, c'est-à-dire il n'y a pas eu de procès, on n'a pas fait de... Bon. Donc, il y a des tas d'événements qui n'ont pas été mis en perspective. Mm-hmm.
Il reste à faire un inventaire.
Oui, il reste à faire un inventaire, parce que ça a laissé des traces.
Ouais, Stéphane Courtois a publié les dossiers noirs du communisme.
Oui, ça c'est une tâche tout à fait louable, mais enfin, ça n'a pas touché, si vous voulez, c'est pas un phénomène de masse comme ce qui a pu se passer pour le nazisme. Mmh. Je dis pas que les deux phénomènes sont peut-être pas absolument comparables, mais enfin, si on parle en termes de victimes, quand même, c'est déjà... Mmh.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Éric Roussel, à celui qui a structuré à la fois votre pensée et votre œuvre, Charles de Gaulle. Vous avouez dans le livre que vous avez été membre de l'UJP, puis qu'ensuite vous avez été... Enfin, c'était donc l'Union des Jeunes pour le Progrès, c'était les jeunes gaullistes. Mmh. Et puis vous avez été orphelin du général, comme beaucoup. On se souvient des propos de Georges Pompidou, « La France est veuve », pour évoquer ce deuil qui a saisi le pays au moment de la mort de Charles de Gaulle. Alors, je voudrais vous faire écouter un extrait sonore. Charles de Gaulle en décembre 1965, face à Michel Droit, et Charles de Gaulle évoque dans un passage que certains reconnaîtront la droite et la gauche. Je voudrais ensuite écouter votre analyse là-dessus, Éric Roussel. On écoute Charles de Gaulle.
La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement qui va aux réformes, qui va aux changements, et qui est naturellement nécessaire. Et puis il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable.
Voilà, c'était Charles de Gaulle le 15 décembre 1965. C'est avec tout ça qu'on fait la France, disait-il. Éric Roussel, est-ce que c'est du même ordre que le en même temps de Emmanuel Macron ?
Non, c'est différent parce que les époques sont encore une fois sont très différentes. Pour bien comprendre la position de De Gaulle, il faut bien voir en tête ce qu'était la formation de quelqu'un comme De Gaulle. Il sortait d'une famille donc catholique, traditionnaliste et très traditionaliste.
Maurrassienne ?
Non, je crois pas qu'on peut dire maurrassienne. Il a été marqué à certains égards par la lecture de Maurras, notamment, je pense, en politique étrangère, c'est assez, assez évident, mais il n'y a aucun signe qui permette de penser que De Gaulle était antisémite. Bon, il y a peut-être certains préjugés qui sont ressortis au moment de la fameuse déclaration de 67, mais enfin bon, De Gaulle était aussi l'homme de sa génération. Mais ce que je veux dire, c'est que il était issu finalement d'un monde intellectuel qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui parce qu'au fond ses bases sociologiques ont pratiquement disparu. Mmh. C'est-à-dire c'était un monde catholique où l'argent finalement était non seulement ne comptait pas beaucoup mais était tenu vraiment en suspicion. Mmh. Et ce qui est très frappant c'est que la grand-mère du général qui écrivait des romans vraiment enfin l'eau de rose extrêmement bien pensant eh bien avait une correspondance avec
ça va vous revenir
Enfin, elle admirait Proudhon. Oui. Elle était. Enfin, et, si vous voulez, quelqu'un comme De Gaulle est l'héritier de cette tradition, et ça explique finalement pourquoi spontanément il pouvait davantage s'entendre au fond avec un communiste qu'avec un radical socialiste.
Pourquoi ?
Parce que au fond, il considérait que les communistes, ils étaient communistes, c'était lui, il l'était pas. Mais enfin, il défendait une
cause. C'était l'un des piliers de la société, l'une des masses de granit.
J'ai pris l'exemple du Parti radical parce que c'était le parti dominant. Et c'était un parti aussi qui avait été, notamment à la fin, victime un peu de dérive affairiste. Et ça, évidemment, De Gaulle, je crois que les radicaux étaient sur l'échiquier politique des personnages que De Gaulle détestait le plus. On a du mal, évidemment, à comprendre ça, parce que, encore une fois, les bases sociologiques de ce courant...
Ça s'est vaporisé. Alors, jusqu'à quel point, selon vous, Éric Roussel, Charles de Gaulle était-il représentatif de ce que vous évoquez dans votre livre à plusieurs reprises, c'est-à-dire la permanence du courant bonapartiste ?
C'est surtout valable, à mon avis, pour son style d'intervention.
Oui.
Il n'y a aucun doute qu'il se rattache à cette tradition. Il ne se confond pas entièrement avec elle, parce que, comme il le dit d'ailleurs dans cette déclaration, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de rassembler. Donc il a été marqué, on a parlé de Maurras, oui, son influence en politique étrangère, aussi toute la critique du parlementarisme, c'est évident aussi qu'il y a été sensible. Mais pour sa conception de la France, je crois qu'il était beaucoup plus proche d'un écrivain qu'on lit plus beaucoup, que j'ai réédité d'ailleurs dans la collection de bouquins, qui est Maurice Barrès,
oui.
Et qui lui avait une conception différente de l'identité nationale, c'est-à-dire que c'était un écrivain vraiment conservateur, nationaliste, mais qui était beaucoup plus complexe que Maurras, qu'il y avait un certain nihilisme chez lui. Et en tout cas, pour ce qui est de l'identité, ce qui le différenciait de Maurras, c'est que Barrès assumait toute l'histoire de France, y compris les périodes qui ne lui plaisaient pas, comme la Révolution. Et un autre écrivain qui a beaucoup marqué De Gaulle, qui est Péguy, était sur la même ligne. Donc je crois qu'il faut bien avoir ça à l'esprit pour comprendre ce qu'était la conception de De Gaulle. Mais évidemment, aujourd'hui, tout ça est assez loin, on a du mal à l'imaginer. Donc on a tendance à simplifier le personnage de De Gaulle. Et finalement, on ne sait plus très bien de qui on parle.
Voilà, on renvoie à votre biographie de Charles de Gaulle. Alors à Charles de Gaulle a succédé Georges Pompidou, que vous décrivez, Éric Roussel, comme étant un grand Premier ministre qui a modernisé le pays. Je crois que vous avez consacré votre thèse à Georges Pompidou, si je ne me trompe pas.
De droit constitutionnel.
Vous connaissez bien le personnage et son œuvre.
Je ne l'ai pas rencontré.
Oui. Mais vous écrivez « Jamais les gaullistes les plus orthodoxes ne lui ont pardonné les circonstances dans lesquelles il avait succédé au général. » C'était une haine ?
Oui, ça venait de loin. Ça venait aussi. Il y avait les circonstances dans lesquelles il avait succédé à De Gaulle, et puis aussi les circonstances dans lesquelles il était entré au cabinet du général à la Libération, puisque Pompidou n'avait pas de passé résistant.
Oui.
Il était arrivé là, évidemment, alors que tous les gens qui étaient autour du général étaient des gens qui étaient soit à Londres, beaucoup à Londres, ou dans la résistance intérieure. Lui n'appartenait à aucune des deux catégories. Et évidemment, ces gens l'ont vu très très rapidement prendre une place très importante dans l'entourage du général, jusqu'à devenir vraiment son homme de confiance. C'est évident que ça ne peut qu'éveiller des jalousies. Oui. Et alors ça s'est révélé avant l'élection présidentielle, au moment de cette affaire Markovic qui était faite pour l'abattre, et dont
Vous décrivez le rôle que aurait joué Maurice Couvenu-Murville.
Oui,
dans l'animation de cette affaire.
Maurice Couvenu-Murville était, on peut pas dire que c'était vraiment un gaulliste historique, puisqu'il était arrivé, à Alger en 1943.
Oui. Il avait eu des responsabilités de haut fonctionnaire au sein du gouvernement.
Pas au sein du gouvernement, c'était un haut fonctionnaire de Vichy, mais qui avait eu des responsabilités très, très, très importantes. Bon, il a vu que c'était quelqu'un de très capable, et que le général, pour lequel le général avait beaucoup de considération. Il attachait beaucoup d'importance à son ralliement. Mais, disons que le gaullisme de Maurice Couvenu-Murville était quand même assez circonstanciel, à mon avis.
Circonstanciel.
Voilà. Pour en revenir à Pompidou, en tout cas, c'est sûr qu'il n'a cessé d'être. Il avait une position paradoxale. Il était à la fois le plus proche de De Gaulle. Et puis celui qui avait tué le père, parce que c'est quand même comme ça que ça s'est terminé.
Alors, ensuite est venu Valéry Giscard d'Estaing, que vous décrivez comme un conservateur artisan de très importantes réformes sociétales. Vous utilisez le mot d'orléanisme pour le qualifier. Expliquez-nous.
Tout à fait évident. Je lui disais souvent, parce que je l'ai rencontré très souvent dans le cadre de la préparation de ce livre, et puis après aussi, il me disait toujours, il me dit, mais vous dites que je suis... Ça l'énervait un peu qu'on l'enferme dans l'organisme. Mais c'est quand même aveuglant. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il était... J'avais fait beaucoup de recherches qu'on trouve dans mon livre sur sa famille.
Agénor Bardou.
C'est vraiment, c'est vraiment éclatant. Ce sont des gens, notamment du côté Bardou, du côté de sa mère, sont des gens qui vivaient dans le culte de Guizot, de Louis-Philippe. C'est écrit en toute. Alors je ne sais pas s'il en était aussi conscient. Oui, il me disait ça. Il me disait vous m'enfermez dans l'orléanisme. Et je lui dis mais c'était peut-être par imprégnation.
Et puis vous rappelez l'aveuglement de Guizot qui a refusé donc l'élargissement du corps électoral. Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing...
Oui, c'est vraiment étonnant de la part d'un... Parce que Guizot était un grand esprit et ça paraît inouï évidemment qu'il se soit...
Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing a été l'objet d'un aveuglement similaire aussi?
Peut-être qu'à la fin de son... Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il a, au contraire, lui a fait des réformes, a essayé d'éviter ce que se renouvelle mai 68. C'était vraiment sa hantise. Simplement, vers la fin de son mandat, il s'est peut-être laissé enfermer dans une image trop statique. C'est peut-être ça qui... Mais enfin, ce n'était pas facile non plus, parce qu'il était en but aussi aux attaques, il faut bien dire, d'une partie de sa majorité, les néo-gaullistes, qui étaient au fond les adversaires de réformes. Donc ça lui était difficile, évidemment. Il avait une majorité très... Enfin, il avait réussi à avoir en 78 une majorité un peu plus rééquilibrée, en ce sens que le parti qu'il avait créé, l'UDF, avait obtenu un succès. Mais enfin, il n'avait pas la majorité à lui tout seul. Il y avait cette pression, évidemment, et ça a peut-être contribué à le fragiliser, parce qu'il ne faut pas oublier que pour être élu, il faut non seulement avoir un bilan, mais il faut aussi avoir un projet. Et c'est peut-être ça qui lui a manqué. Je pense que c'est
peut-être ça qui manque à certains candidats aujourd'hui, peut-être. Alors, on n'en finirait pas de citer la galerie de portraits qu'on parcourt en votre compagnie, dans votre livre, Éric Roussel, Gaston Palevski, Geoffroy de Courcelles, Jean Monnet, Louis Jox, Jacques Soustelle, dont vous rappelez à juste titre qu'il est passé de la gauche à la France libre, puis à l'OAS. Il y a comme ça des parcours qui sont tout à fait hallucinants. Le colonel Passy, Maurice Cournemurville, Jacques Faucard, Olivier Guichard. À travers toute cette histoire politique, il y a quand même une constante. Vous écrivez, Éric Roussel, les Français révèrent la liberté dans son principe, mais ne l'apprécie qu'à la condition impérative qu'elle s'accompagne d'une très forte dose d'égalitarisme. Alors on va y venir avec Laetitia Strauss-Bonnard dans un instant à propos de son livre. C'est une constante, ça, cette tension entre cette passion pour la liberté, mais aussi cette passion pour l'égalité,
oui,
et ce court-circuit permanent.
Oui, c'est un constat que tout le monde peut faire, et dont a été victime notamment Valéry Giscard d'Estaing, plus d'ailleurs dans son personnage, finalement, parce qu'il incarnait, que dans la politique qu'il a réellement menée, sauf évidemment à la fin, parce qu'il était victime de deux chocs pétroliers, ce qui impliquait une politique d'austérité, évidemment, qui ne pouvait pas être populaire, mais c'était renforcé parce qu'il représentait socialement Valéry Giscard d'Estaing, qui se confondait vraiment avec les, qu'on appelait autrefois, les classes dirigeantes.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, avec nos deux invités aujourd'hui dans Les Racines du Présent, nous essayons de discerner les clés de l'histoire pour comprendre la campagne présidentielle aujourd'hui. Nous venons de converser longuement avec Éric Roussel pour son livre absolument passionnant « C'était le monde d'avant, les carnets d'un biographe » aux éditions de l'Observatoire. Je me tourne maintenant vers Laetitia Strauss-Bonnard pour son livre « De la France » publié chez Perrin et aux Presses de la Cité. Alors je rappelle, Laetitia Strauss-Bonnard, que vous êtes journaliste, vous êtes rédactrice en chef des pages consacrées au débat intitulé Le Postillon dans l'hebdomadaire Le Point. Vous avez travaillé dans un cabinet ministériel chez François Baroin. Vous avez été convié au début du septennat de Emmanuel Macron à l'Élysée avec plusieurs dizaines d'intellectuels. Vous racontez ce marathon intellectuel au début de votre livre. Puis vous avez vécu longtemps hors de France et vous voulez délibérément penser en dehors des clous. Vous insistez sur le fait que la France se distingue par un souci d'elle-même devenu maladif. Que voulez-vous dire, Laetitia Strauss-Bonnard, pardon?
Eh bien, j'ai l'impression que si je compare à d'autres nations que je connais...
Vous avez vécu en Grande-Bretagne.
J'ai vécu 7 ans en Grande-Bretagne et je connais bien la culture anglo-américaine. En fait, je connais bien l'Allemagne aussi, pour des raisons personnelles. Il me semble qu'il y a en France une volonté d'introspection, alors qui peut être une bonne chose. Hein. Je trouve que la qualité du débat en France sur la France elle-même est quelque chose d'assez spécifique et certainement intéressant. Mais ça, parfois, ça tourne à une obsession. Et quand je dis que c'est maladif, c'est que on en est arrivé à inventer un genre de littérature que j'appelle la littérature du déclin. C'est-à-dire qu'on a on a dans le domaine économique, politique, social, culturel, beaucoup de commentateurs ou d'analystes.
On se fait du bien à se faire du mal.
Exactement. Et je trouve ça étrange, assez symptomatique hein, de notre pays et aussi de l'incapacité à comprendre que un pays ne peut pas être dans un état de déclin perpétuel. Enfin, déjà, ce serait impossible puisque ça signifierait que vraiment il est en train de couler, mais que ça signifierait aussi qu'il y a eu une période où ce pays était tout en haut. Donc c'est paradoxal. Hein,
c'est un peu le monde d'avant que décrit Éric Roussel, non ?
Pas forcément, c'est plutôt le
fantasme. Il y a une époque où on était quand même le centre du monde, non ? Avec l'Empire colonial, etc.
Je pense que c'est un fantasme.
Éric Roussel ?
Est-ce que vous ne croyez pas que cette... je partage tout à fait votre jugement sur ce qui se passe. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié, au fond, à un souvenir un peu enfoui de la défaite de 40 ? C'est-à-dire le fait que cette défaite a quand même été la plus grande défaite de l'histoire.
Laetitia Strauss-Bonnard, vous n'étiez pas sur Terre en 1940.
De Gaulle l'a masqué, en quelque sorte.
Exactement, mais je me demande si ça n'est pas un peu la racine du mal, puisqu'on parle de racine.
Je le pense aussi, oui.
Exactement. Puisqu'on n'a pas pu regarder notre défaite en face, eh bien on se raconte d'autant plus que notre passé était extrêmement glorieux. Alors bien sûr, il y a des périodes magnifiques, fantastiques, extraordinaires dans l'histoire de France et je la chéris comme beaucoup de Français. Mais il y a aussi des choses moins belles. Nous n'avons pas tout inventé. D'autres nations ont fait parfois mieux. Et donc cette idée du déclin, pour moi, c'est vraiment l'envers d'une obsession de la suprématie passée. Donc ça veut dire
une
qu'en fait...
Une obsession illusoire.
Oui, on ne fait pas œuvre d'historien en faisant ça. En fait, on fait œuvre de conteur, finalement. Alors pourquoi pas ? Mais quand on prétend faire l'histoire, tout à fait, quand on prétend faire l'histoire, en fait, on trompe.
Alors, essayons de remonter le fil de l'histoire. Vous écrivez, Laetitia Strauss-Bonnard, de 1789 à 1877, il a fallu un peu plus de, ou presque 100 ans, pour que la révolution rentre au port, selon cette fameuse expression. Vous écrivez, la source anti-parlementaire a mis longtemps à se tarir. En France, il n'est pas rare que la rue prime les urnes et la force, le droit. Le conflit à la française est toujours provoqué par une minorité. C'est une constante dans notre histoire, à vos yeux ?
Oui, il me semble. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Éric Roussel. Il est très frappant de voir que beaucoup de révolutions ont été provoquées par des minorités. Des minorités qui, comme on le sait, quand elles sont organisées et influentes, peuvent avoir beaucoup plus d'effet que la majorité. Mais je pense qu'on peut aller plus loin que ce premier constat, ce que j'essaie de faire dans le livre, qui est de dire que si les minorités tendent à vouloir s'exprimer tout le temps de façon intempestive, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre expression normale politique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, c'est mon hypothèse, un problème dans la représentation, dans le système politique qui permet ensuite de choisir des élus.
C'est cette fameuse démocratie représentative qui serait à bout de souffle, c'est ça ?
Je pense, et je pense qu'elle n'est pas seulement à bout de souffle, je pense qu'en fait elle est mal ficelée dès le départ.
Sévère là, non ?
Oui, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Alors, il y a des raisons historiques qui tiennent à l'importance de l'État et notamment de la bureaucratie en France, mais ça date d'il y a très longtemps, de la monarchie.
Mais c'est ça qui nous a aidé à nous construire.
Mais bien sûr, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaie aussi de dire que tout n'est pas mauvais. Quand on souligne ces difficultés, ça ne signifie pas que tout est à jeter. C'est ce qui fait aussi que en France, malgré l'archipélisation que vous notez, Éric Roussel, il y a quand même un sentiment d'unité que je trouve beaucoup plus fort que dans d'autres pays, notamment le Royaume-Uni. Moi, je suis frappée, en fait, par l'unité, l'uniformité, parfois,
c'est-à-dire le Royaume-Uni, de la pensée française. Ce sont trois territoires qui sont unis.
Mais c'est plus que ça. Oui. Là, on trouve vraiment des communautés différentes qui sont reconnues comme telles.
Et puis, les classes sociales sont beaucoup plus marquées, enfin, à mon avis.
Alors, c'est très paradoxal parce que la méritocratie par le travail et la réussite professionnelle est très forte là-bas. Oui. Mais d'un autre côté, il y a des murs invisibles.
Oui.
Alors qu'en France, les murs, ils sont bien visibles.
Exactement, oui.
Alors, revenons sur l'histoire, si vous voulez bien. Laetitia Strauss-Bonnard, vous écrivez « La France n'était ni royaliste en 1814, au moment de la Restauration, ni orléaniste en 1830, ni démocrate en 1848, ni bonapartiste en 1851, ni républicaine en 1870. » Et vous écrivez « Elle s'est contentée de subir le fait et d'adopter après coup le régime imposé. » Expliquez-nous.
Bah, je pense que c'est, je pense que vous l'avez bien, vous l'avez bien
dit. Parce que vous
décrit.
Allez plus loin, vous écrivez, ne peut-on en dire de même du XXe siècle lorsque les Français acclamèrent De Gaulle après avoir plébiscité Pétain? Alors.
Ça signifie qu'il me semble qu'il y a toujours une tension entre ce que la masse souhaite et ensuite ce que fait le pouvoir. Parfois, c'est une bonne chose. La masse n'a pas toujours raison. Si la masse est pour la peine de mort, ce que je ne soutiens pas personnellement, je suis contente que le pouvoir ne soit pas pour la peine de mort. Donc, on ne peut pas toujours espérer une identification totale entre ce que
veulent
les gens.
C'est les limites du référendum.
Tout à fait. Mmh. Et ce serait dramatique. Ce serait la porte ouverte pour moi à l'autoritarisme si tout ce que voulait la majorité tout le temps était accepté. Et c'est bien ce que Tocqueville nommait la tyrannie de la majorité quand il parlait, décrivait les États-Unis et leur démocratie toute jeune. Mmh. Il disait que le risque, c'était qu'on donne trop de pouvoir à la majorité. C'est pour ça qu'il louait le système américain qui avait créé des contre-pouvoirs. Il insistait énormément sur le rôle des associations, des pouvoirs locaux, mais aussi du droit. Comme contre-pouvoir. Donc bien sûr, je ne défends pas la tyrannie de la majorité, mais j'ai l'impression que parfois en France, on est dans une situation inverse, où on en va à ne plus écouter ce que veut la majorité. Mais non pas parce qu'il y a un complot, une volonté, peut-être parce que les structures ne sont plus faites pour faire cheminer la volonté de la majorité.
Alors, je vais vous faire écouter, Laetitia Strauss-Bonnard, un exemple tout à fait précis de ce que vous évoquez là, qu'on a peut-être oublié. C'était en novembre 2013, il y a eu un épisode dans l'ouest du pays, en Bretagne, qu'on a appelé les Bonnets Rouges. C'était pas encore les Gilets jaunes, mais c'était les Bonnets Rouges. Et vous allez écouter ça avec attention. Je trouve que c'est une bonne illustration de votre thèse. On écoute ce reportage FR3.
Un portique tenu comme une place forte. Ce tracteur défie les gendarmes au pied de leur barrage. À Jugon-les-Lacs, les manifestants tentent de forcer le passage. Pour les repousser, des gaz lacrymogènes. Les jets de pierre vont cesser. Ils battent en retraite. Un peu plus tôt sur cette nationale, entre Rennes et Saint-Brieuc, les manifestants sont harangués par les bonnets rouges.
Vous voyez ce portique-là ? Ça va nous plomber notre économie et on n'en veut pas. Et on appelle également les autres régions, les Pays de Loire, les Corses, les Auvergnats, tous les gens, toutes les régions, à faire comme nous, à défendre leur pouvoir d'achat.
À quelques kilomètres, Montauban de Bretagne, là, en silence, autour du portique, 150 gendarmes. Face à eux, 250 personnes, aucune violence. Un manifestant est venu le dire.
On n'est pas là pour casser quoi que ce soit, on est là pour marquer le coup. On est là pour exprimer le ras-le-bol.
Et un peu partout en France aujourd'hui, les actions se sont multipliées. En Bretagne donc, mais aussi dans le Nord, dans la capitale, près de Marseille, ou encore sur deux sites en Charente. À Martigues, sur l'autoroute, à 10 km/h, opération escargot, des routiers. Enfin à Paris, des militants du printemps français anti-mariage pour tous se sont greffés au mouvement. Sur leur site, ils s'exhibent coiffés de bonnets rouges, déployant une banderole sur un portique du périphérique.
Voilà, c'était la crise des bonnets rouges en novembre 2013. Alors Laetitia Strauss-Bonnard, dans votre livre « De la France », publié chez Perrin et aux Presses de la Cité, vous évoquez bien ce procédé minoritaire qui est à l'œuvre dans de nombreuses luttes. Et il faut rappeler que les bonnets rouges étaient en lutte contre l'écotaxe, alors même qu'elle venait d'être votée à l'unanimité par le Parlement, et que le gouvernement finalement donc a reculé, on peut le rappeler, et que ça a coûté donc 1 milliard d'euros. Expliquez-nous, Laetitia Strauss-Bonnard.
Alors, c'est intéressant d'abord que vous citiez les bonnets rouges, parce que dans mon livre, je parle surtout des gilets jaunes qui sont leurs héritiers. Et le phénomène des gilets jaunes m'a fascinée parce que j'avais l'impression que c'était un condensé d'histoire politique française en quelques mois.
Allez-y.
En fait, avec à la fois la tradition de la contestation à la française et en même temps quelque chose de très nouveau parce qu'on avait ces gilets fluorescents, cette occupation des ronds-points, les réseaux sociaux évidemment qui étaient très présents. Donc d'abord j'étais très étonnée, très intéressée et puis j'avais beaucoup de sympathie pour la demande initiale parce que j'avais l'impression en effet que cibler les personnes qui ont des voitures et donc qui sont en général hein, les personnes qui vivent plutôt en province et qui n'ont pas forcément de gros besoins. De gros moyens, me semblait pas tout à fait bien calibré politiquement, puisqu'il s'agissait de faire une taxe carbone, enfin augmenter la taxe carbone sur l'essence. Mais ensuite, le mouvement, on le sait, a complètement dégénéré. Et quand le mouvement est devenu violent et qu'il est devenu complètement revendicatif, là aussi, validant un petit peu ce qu'on sait des révolutions passées.
Vous avez vu l'ombre de 93 ?
Un petit peu, mais c'est pour ça que j'ai trouvé le phénomène vraiment passionnant et que j'y ai vu à la fois cette demande de reconnaissance politique, parce que ces gens n'avaient pas que des revendications matérielles. C'est devenu une revendication politique puisqu'ils demandaient l'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne.
Oui, absolument.
Ça allait très loin. Ils voulaient la démission du président de la République. Mm-hmm. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on...
Certains voulaient les guillotiner.
Mais bien sûr, mais ça voulait dire beaucoup de choses, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur cette absence en fait, de reconnaissance politique, mais d'un autre côté... Ça veut dire, ça montre aussi que quand on veut se faire entendre en France, on utilise très souvent la violence. Et bien sûr que ça n'est pas une solution, mais c'est vraiment l'expression aussi de la difficulté à se faire entendre. Oui. J'ajouterais aussi que ce qui est vraiment passionnant dans le phénomène des Gilets jaunes, c'est son aspect provincial. Mmh. On a vu une France...
Régionale, vous voulez dire.
Je fais exprès parce que je trouve que le mot région, c'est une forme de cache-sexe pour ne pas dire province. Mais les provinces françaises qui sont tellement importantes pour la France, en fait, on sait très bien que elles ont parfois un sentiment d'éloignement très fort par rapport à Paris. Moi, je trouve que notre pays est beaucoup trop centralisé. Mmh. Et c'était aussi ça qui s'exprimait par les Gilets jaunes. C'était simplement des gens ordinaires qui voulaient nous dire qu'ils étaient là.
Très loin. Éric Roussel voulait y réagir.
Oui, je crois que la Constitution de 58, elle a prouvé quand même son utilité, sa force. À mon avis, elle n'est pas complètement à jeter, mais elle est sans doute à revoir. D'abord, elle a été considérablement altérée. Le rôle du président de la République aussi a beaucoup évolué. Et ce qui serait sans doute nécessaire, c'est de prévoir une modification. Par exemple, il y a le Conseil économique et social, au fond, qui, on peut le dire, ne sert pas à grand-chose.
Absolument.
On pourrait peut-être transformer cette structure qui pourrait prendre en compte, justement, tout ce qui se passe, justement, en
toutes
province.
Toutes les France,
qui
toutes les France
et,
oui.
Et ce qui se manifeste aussi par les réseaux sociaux, qui n'est absolument pas pris en compte par la représentation parlementaire.
Alors là, vous soulevez un point absolument essentiel.
Donc il y aurait peut-être une adaptation à faire pour que au moins l'information circule.
Sur ce point des réseaux sociaux que vous soulevez, Éric Roussel, Laetitia Strauss-Bonnard, vous écrivez, à propos du nouvel électeur qui n'est pas un électeur, en fait, vous écrivez, cet usager des GAFA qui s'informe sur Google, s'exprime sur Facebook, évalue ses achats sur Amazon, conçoit pareillement la politique. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer et qu'on serait au bout de cette constitution, au bout de cette constitution de 58, au bout de cette démocratie représentative.
Alors deux choses. D'abord sur les réseaux sociaux. En effet, je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui à considérer que la politique, c'est une extension du reste, c'est-à-dire une extension de l'opinion qu'on exprime sur les réseaux sociaux. Mmh. Pour moi, c'est très dangereux parce que la politique, ça n'est pas seulement une affaire de clics ou d'opinions versatiles.
C'est vraiment
le fruit d'une réflexion, d'une délibération.
Là, vous êtes de l'ancien monde.
Oui, mais je pense que cet ancien monde est immortel et il doit le rester.
D'accord.
Et donc je suis à la fois en faveur, personnellement je suis en faveur du RIC. Je pense qu'il faut
le référendum d'initiative citoyenne.
Ce type de mesures parce que je crois qu'on n'arrive plus à faire autrement. Mais je pense qu'il faut le faire avec cette idée que ça n'est pas la même chose du tout que un like ou une appréciation sur le réseau social. C'est que c'est de la politique et donc le RIC de toute façon dans les pays où il existe comme la Suisse, il se fait après
d'abord. Il vote tout le temps en Suisse. il faut surtout tout le temps.
Oui, mais c'est très compliqué en fait. Si vous voulez soumettre un projet à RIC, vous devez déjà récolter des signatures d'un pourcentage de l'électorat pour qu'ensuite votre projet puisse faire l'objet d'un RIC. Et puis surtout, vous l'écrivez pas vous-même. Vous devez vous faire conseiller. Donc c'est un vrai projet. C'est pas du tout une lubie qui devient un projet de loi. Donc le processus est souvent caricaturé en France quand on en parle. Mais un RIC, c'est compliqué. Et le paradoxe en fait, quand on regarde l'histoire de la Suisse qui utilise le RIC, c'est que très peu de RIC sont adoptés. Le paradoxe,
en fait,
c'est que ça crée un conservatisme
normatif.
On vote beaucoup,
mais on dit souvent non.
On dit très souvent non, parce qu'en fait, quand on est devant la possibilité d'une action concrète, qu'on a appelée de ses voeux, quand elle devient concrète, on est soudain moins révolutionnaire.
Oui. Éric Roussel, vous partagez ce point de vue ?
Oui, je crois. Oui. Je pense que c'est... Mais au moins, ça a l'avantage de désamorcer un peu les problèmes.
Oui, ça libère de la vapeur.
Exactement.
C'est-à-dire, ça introduit des filtres.
Oui.
C'est peut-être ça qui manque
en
France.
Alors, peut-être le moment est venu, Laetitia Sroche-Bonnard, que vous nous exposiez votre concept de base, parce que je trouve que c'est le concept qui articule votre livre. C'est donc la question de cette société de créances. Expliquez-nous. Est-ce que vous voulez dire que finalement, nous tous, nous considérons que nous avons plus de droits que de devoirs, comme disait le président de la République ?
Oui, je pense, mais nous ne sommes pas entièrement responsables. Je pense que c'est plutôt le fruit d'une interaction centenaire entre le peuple français et ses dirigeants et son État. En fait, pour commencer, c'est un concept, donc c'est un modèle. Je ne prétends pas que ça ait une réalité historique. J'ai essayé de comprendre cette interaction étrange entre la société et l'État. Et je me servais du modèle du contrat social, comme on fait souvent, celui de Rousseau, celui de Hobbes. Il y a un contrat entre les citoyens qui cèdent des droits et qui, en échange, reçoivent protection de l'État. Et j'ai l'impression que ce contrat est complètement déséquilibré en France, mais depuis toujours. Et c'est pour ça que je l'appelle société de créance, parce que dans une créance, en fait, vous avez avoir une créance sur quelqu'un, c'est estimer que ce quelqu'un vous doit quelque chose. Et en réalité, pour moi, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le peuple français est dans la situation constante d'estimer que l'État lui doit quelque chose. Et pourquoi il le pense ?
Et vous le faites remonter à Louis XIII.
C'est parce que l'État, lui, à mon avis, lui prend trop. On est dans un rapport de force très étrange où l'État, en fait, prend beaucoup de libertés, notamment politiques, enfin en tout cas restreint et a restreint pendant longtemps certaines libertés politiques.
Et
en échange, échange, la technique, c'était toujours de donner
des prébendes,
c'est-à-dire des aides financières, la sécurité sociale, qui est une très bonne chose, attention, mais d'une façon qui est monétaire, c'est une façon de compenser les droits politiques qu'on n'a pas donnés. Le fait de prétendre qu'on va avoir une politique industrielle qui peut être totalement géré par l'État, le fait de garantir des emplois, le fait même, et on l'entend notamment dans la campagne présidentielle, et moi ça me frappe beaucoup, qu'on entend des candidats qui nous disent « je vais augmenter les salaires ». Mais le candidat ne peut pas augmenter les salaires.
Ouais.
C'est plutôt l'État qui va baisser les taxes qui s'appliquent aux salaires. Donc voilà ce contrat déséquilibré. Donc personne n'est responsable et tout le monde l'est en même temps.
Et ça, c'est depuis la monarchie absolue, la croissance de l'absolutisme.
Bien sûr.
Et la Révolution n'a pas remédié à cet état de fait.
C'est là que c'est paradoxal,
allez-y.
Là que je me place, modestement, j'espère, dans la lignée de Tocqueville. C'est que je pense qu'il y a plus de continuité entre la Révolution et les Républiques et la monarchie que de rupture. Bien sûr, il y a une rupture dans l'ordre de la légitimité. La légitimité ne vient plus de Dieu ou de l'héritage. Elle vient du peuple qui est supposé souverain. Donc, bien entendu, que ça change énormément de choses.
Et pourtant,
mais les révolutionnaires ont finalement recréer le même système en validant un État quand même très puissant, très organisateur, et parfois ils sont allés plus loin en fait
trop
dans l'organisation.
Trop à vos yeux.
Oui, bien sûr, trop à mes yeux.
Éric Roussel, vous qui avez étudié l'État de près et qui l'avez observé de près.
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont a été apostrophé le président de la République au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Il y a eu un manifestant qui l'a apostrophé d'une façon très violente en lui disant « Vous êtes mon employé ». Et c'est exactement ça.
Eh oui.
C'est le...
Bien sûr, alors.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Bon, c'est peut-être manquer un peu de respect parce que moi, je critique la présidence de la République comme institution, mais j'ai beaucoup de respect quand même pour cette institution tant qu'elle existe. Donc, je trouve que là, c'est vraiment manquer de respect à celui qui l'incarne. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même conception que les Britanniques qui pensent que, eh bien, par exemple, les députés sont ceux qui les représentent, sont leurs employés, ils sont à leur service. Nous, on a plutôt des personnalités politiques.
Oui, le mandat n'est pas impératif.
La chose publique leur appartient. Mais même ça va plus loin que ça.
Allez-y.
C'est cette idée que la chose publique appartiendrait à l'homme politique. J'ai entendu Emmanuel Macron, par exemple, lors de cette soirée avec les intellectuels que vous avez mentionné au moment des Gilets jaunes, qui disait...
Une soixantaine d'intellectuels avaient été invités, ça a duré 7 heures, c'était un marathon.
Qui disait,
et vous mentionnez au passage que que 80% de ces personnes-là étaient salariés de l'État, étaient financés par l'État.
J'étais très frappée de ne pas voir beaucoup plus d'auteurs indépendants, si je ne suis pas d'accord avec tous ces gens-là, mais des gens qui vendent beaucoup de livres, qui ont un poids très important dans la vie intellectuelle française, ces gens n'étaient pas présents. Il y avait plutôt des chercheurs salariés de l'État. Et je voulais parler de cette occasion-là, parce que ce jour-là, Emmanuel Macron a dit « mon ministère de l'Éducation nationale ». Et ça m'a vraiment fait sursauter. Parce
c'est le monarque.
Ça n'est pas le sien, c'est le nôtre.
Oui.
Et il parlait en plus un peu comme un manager, vous voyez, c'est ma division marketing. Voilà. Mmh. Et donc, cette vision de l'État, pour moi, elle est catastrophique. Que doivent penser les gens qui l'entendent?
Alors, vous mettez en cause, Laetitia Strauss-Bonnard, ces liens qui ligotent. Et vous avez inventé un néologisme, alors je vais essayer de le prononcer, la cognitivocratie. Expliquez-nous. On arrive bientôt au terme de l'émission, vous allez devoir être bref, je suis désolé.
Alors... Dans mon exploration des choses qui vont mal en France, y en a beaucoup, mais il y a des choses qui vont bien aussi, mais dans les choses qui vont mal, je parle notamment de l'importance des intellectuels en France et surtout de la pensée et de l'abstraction. Alors bon, c'est un peu paradoxal parce que c'est mon métier, mais je pense
vous
quand
en
même...
Faites partie.
Oui. Mais je peux l'être coupable aussi parce que je pense que notre pays est trop intellectualisé et qu'on ne valorise pas assez. Mais c'est vraiment la tarte à la crème, pardon. Mais
le terrain,
les
le concret.
Métiers manuels qui sont très importants. Et je parle de cognitivocratie parce que j'analyse les effets de la méritocratie. Et la méritocratie, qui pour moi est une bonne chose, est aujourd'hui essentiellement cognitive. C'est-à-dire qu'elle met en valeur des professions intellectuelles ou abstraites. Hein. Quand vous êtes directeur marketing, par exemple, vous faites pas vraiment de terrain. Tout ce que vous faites, c'est très cognitif. Mmh. Et je pense que c'est très démoralisant. Et je pense que ça participe aussi du populisme. Enfin bon, là, vraiment, je simplifie à grands traits parce que ça démoralise le populaire, vous voyez.
Mais alors, lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, veut casser les castes, qu'il casse l'ENA, qu'il institue l'Institut National du Service Public, qu'il veut renouveler la diplomatie, il veut renouveler les corps d'inspection, est-ce que ça correspond à ce que vous attendez, Laetitia Strauss-Bonnard?
Alors, ça correspondait à ce que j'attendais.
C'est une rupture historique, quand même.
Quand il était ministre de l'économie.
Oui.
L'Emmanuel Macron de cette époque n'a pas fait énormément de choses, mais le peu qu'il faisait allait dans ce sens-là. C'est cette idée que le libéralisme économique pouvait émanciper tout le monde, y compris les plus pauvres, ce que je crois. Et je pense notamment à ces bus Macron qui ont permis à des gens de voyager à bas coût dans toute la France. C'est vraiment une bonne chose et il faut faire plein de choses de ce type. Malheureusement, une fois qu'il est devenu président, et ça c'est un des gros problèmes pour moi du système de la présidence à la française, c'est comme si l'institution s'était emparée de lui et il a cessé de porter ce message-là. Il a fait peu de choses, transformer l'ENA en Institut National du Service Public.
Non, vous y croyez pas. C'est pas une rupture historique.
Mais là, pour le coup, c'est mon âme conservatrice qui parle. Ouais. Je pense que l'ENA a plein de défauts, mais qu'il vaut mieux la conserver telle qu'elle est et l'adapter plutôt que de la cacher et de faire croire qu'on va faire.
Vous y croyez
autre
pas.
Chose. Non, je n'y crois pas du tout.
Ouais.
Et je regrette vraiment qu'il n'ait pas été plus audacieux. Parce que c'est pour ça que beaucoup de gens ont voté pour lui, à mon avis.
En fait, vous êtes révolutionnaire, Laetitia Strauss-Bonnard, d'une certaine façon.
Non, pas du tout, mais je pense que parfois, la conservation est dans la révolution.
Oui. Éric Rousset, vous avez déjà entendu ça.
Il faut dire qu'il n'a pas eu quand même beaucoup de temps.
Il y a eu tellement de crises.
Il y a eu tellement de crises. La pandémie, donc ça laisse quand même.
Alors, nous avons hâte de lire votre biographie d'Emmanuel Macron.
Ah, peut-être un jour, l'écrivrez-vous. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué. On arrive au terme de l'émission. Laetitia Strauss-Bonnard, c'est. Vous définissez véritablement comme une fédéraliste. Vous pensez qu'il faut redonner de la puissance au territoire. Vous pensez que la régionalisation a été malmenée.
Oui, je suis une décentralisatrice, mais je n'aime pas ce terme parce que déjà, il contient le mot centre. Mm-hmm. Donc, il se détermine par rapport au centre. Je préfère le mot localiste, même si aujourd'hui, en fait, il est plutôt employé par des écologistes qui prônent, disons, l'alimentation de proximité. C'est pas vraiment ça. Mon idée du localisme, mm-hmm. c'est la vraie décentralisation et la vraie subsidiarité. C'est-à-dire que, pour moi, il faut partir de l'échelle.
La subsidiarité qui vient de la doctrine sociale de l'Église.
Tout à fait.
Vous l'ignorez
tout
pas, Laetitia Strauss-Bonnard. Oui.
Et il faut partir de l'échelon le plus bas mm-hmm. et ensuite remonter à l'échelon supérieur, ce que le plus bas n'a pas pu faire. Pourquoi ? Mais parce que c'est bien au niveau local que, tout simplement, on peut mieux agir parce qu'on peut être mieux responsable de son action. Quand l'action est locale, on voit qui la mène et ensuite on peut mieux la contrôler. Et ça fait partie d'une des critiques hein, que j'adresse au système politique à la française, c'est qu'il est tellement centralisé et global qu'on ne sait plus qui fait quoi et qu'on ne peut plus le contrôler et qu'on ne peut plus y voir une once de responsabilité.
Mais donc là, vous allez au rebours de toute notre histoire, de toute l'histoire de la Troisième République, de la Quatrième, puis de la Cinquième, qui a voulu justement unifier cette France couturée de partout, cette France marquée par différentes langues, par différents systèmes juridiques.
Vous avez raison. Donc là, peut-être que je me contredis moi-même. En même temps, je pense que la France a été beaucoup moins centralisée dans le passé. La centralisation la plus importante, elle date de l'après-guerre, quand elle est devenue économique. Quand avec
mais
les commissariats au plan.
Il fallait ça peut-être, non ? Non ?
Peut-être, en fait, je n'étais pas là pour en juger. Et oui, ce serait peut-être un petit peu prétentieux de prétendre qu'on aurait dû faire autrement, mais je ne pense pas qu'on soit obligé de continuer sur ce chemin-là. Quand on regarde la France du début du XXe siècle, on a une France quand même assez diverse. Avec encore des patois. Moi, je regrette la disparition des patois, même si, bon, bien sûr, la Troisième République, c'est elle qui a commencé à les faire baisser. Mais quand même, au début du XXe siècle, on parlait quand
mais
même encore
patois. Mais ça a été la grande tâche d'éduquer l'ensemble du pays.
Oui, mais pourquoi ne pas faire
et
les deux ?
Et donc de l'uniformiser, voilà.
Pourquoi ne pas faire les deux ? Et d'accord. D'autres pays ont réussi.
Vous avez inventé également un autre mot, Laetitia Strauss-Bonnard, c'est le libertariat, ça sera votre dernier mot. Expliquez-nous, le libertariat, c'est quoi ? C'est une nouvelle doctrine politique ?
En fait, pour introduire cette notion, je rappelle l'histoire des GRAC.
C'est un collectif de hauts fonctionnaires ? Non, c'est pas ça.
Non, pas du
non.
tout.
Alors,
les vrais GRAC,
l'histoire
donc,
des GRAC.
Tibérius et Gaius, les deux, les frères GRAC. Qui
sous la République romaine.
Voilà, qui s'était mis en tête de représenter le peuple, de l'émanciper, enfin on disait pas émanciper à l'époque, mais de lui donner davantage. Et en fait, on les met souvent ensemble alors qu'ils ont des destins plutôt différents. Tibérius, en gros, sa méthode, c'était de donner plus de terres au peuple et de les libérer par l'autonomie économique. Bon, il a très mal fini, il est mort sous les coups des factions du Sénat. Ensuite, son frère Gaius a voulu entreprendre la même chose, mais lui faisait autrement. En fait, il voulait plutôt étatiser et distribuer du pain, distribuer des revenus. Voilà, je simplifie à l'extrême.
Vous êtes plutôt du côté du premier.
Je défends la première version.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que je pense que libérer le peuple, ça ne se fait pas, à mon avis, en le liant plus encore à l'État. Ça se fait en lui donnant plus de liberté. Et c'est cette tradition que j'invente, qui s'appelle le libertariat, que j'appelle de mes voeux.
Et vous portez cet appel à la liberté. Ça sera votre dernier mot. Un grand merci à vous, Laetitia Strauss-Bonnard. Je rappelle le titre de votre livre, tout à fait passionnant et stimulant, De la France, un titre tout à fait modeste, je dois dire. C'est chez Perrin, aux Presses de la Cité. Et enfin, Éric Roussel, je rappelle l'ensemble de vos biographies qu'il faut lire et relire. Mais votre dernier livre, c'était Le Monde d'avant, carnet d'un biographe. C'est publié aux éditions de l'Observatoire et c'est bourré d'informations absolument passionnantes. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission, les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.